Je vous invite à prier avant que nous ouvrions ensemble la parole du Seigneur pour la méditer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier profondément parce que nous savons que nous sommes en ta présence. Non seulement nous le savons avec notre tête, mais nous le savons aussi avec notre cœur. Parce que par nos chants, nos prières, la présence de ton esprit en nous, Seigneur, tu attestes que tu es là parmi nous. Et Seigneur, nous voulons profiter de ces instants, goûter combien tu es bon. Mais aussi, Seigneur, par nos paroles, par l'attitude de notre cœur, par nos pensées et nos soupirs aussi, nous voulons te glorifier et te louer parce que tu es un Dieu vivant et un Dieu qui nous fait du bien. Seigneur, que cette même grâce se répande aussi sur tous tes enfants à la surface de la terre qui se rassemblent aujourd'hui pour te célébrer. Qu'ils te célèbrent dans des moments de joie ou dans des moments de tristesse. Nous te prions, Seigneur, que tu leur fasses cette même grâce. Et Seigneur, maintenant nous te prions que par ta parole encore tu nous parles. Que tu nous enseignes, Seigneur, que tu nous enrichisses et que nous repartions tous, Seigneur, encore plus enrichis que ce que nous étions en rentrant. Au nom de Jésus, amen. Le texte que je vous invite ce matin à méditer est tiré de l'évangile de Matthieu, voilà, au chapitre 9. Nous lisons ceci au verset, c'est vers la fin, à partir du verset 35-36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce sont les 12 que Jésus envoya. Tout à l'heure, on disait encore que dimanche dernier était une journée assez extraordinaire et merveilleuse. Bien sûr, en raison du culte que nous avons eu la joie de pouvoir célébrer avec le baptême de Loïc, mais pour moi aussi, en raison de cette interprétation de l'évangile de Marc que nous avons eue en fin de journée par ce groupe qui nous venait de l'église de Saint-Genis. Toute l'église ici était complètement transformée, on était tous assis, non pas en rond, mais les uns autour des autres. Et on a eu droit à une présentation jouée de l'évangile de Marc. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé dans cette interprétation, c'était le fait que du début à la fin, en 2 heures de temps, on avait tout l'évangile qui nous était raconté en une seule fois. Et combien ça faisait du bien de pouvoir avoir cette vue d'ensemble quand d'habitude on regarde souvent peut-être un verset, des petits détails. Et j'étais beaucoup rafraîchi par cette interprétation de l'évangile de Marc. Et puis, au cours de la semaine, en lisant l'Évangile, et en particulier ce chapitre 9 de l'Évangile de Matthieu, je me suis rendu compte à quel point la vie de Jésus devait être extrêmement remplie, avec toutes sortes d'événements et de rencontres de personnes, et presque à chaque fois, des choses relativement extraordinaires se passaient. Et si vous repreniez ce chapitre de Matthieu, je veux que vous commenciez au verset 1, en l'espace de 35, 36, 38 versets, vous allez avoir un nombre d'événements assez extraordinaires. Et je ne vais pas les citer tous dans l'ordre, mais d'un côté, vous allez avoir la guérison de la fille de Jaïrus, qui a été interrompue par la guérison de la femme qui avait des hémorragies depuis une douzaine d'années. Dans ce même chapitre, vous allez avoir les pharisiens qui vont s'approcher de Jésus et puis lui dire « Mais comment ça se fait que toi, tu fréquentes des gens malfamés comme les collecteurs d'impôts ?» Et puis en même temps, vous aurez l'appel en un verset de Matthieu. Et tout ça se passe à une vitesse Mais quelquefois, on pourrait se dire, ouf, ça allait extrêmement vite. Et ce qu'il y a, c'est que quelquefois, on ne retient qu'un certain nombre de détails relativement importants, mais isolés les uns des autres. Et un des détails importants qu'on a, et que beaucoup de personnes se souviennent dans ce passage en particulier, c'est ce commandement que le Seigneur donne à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'avait jamais entendu ce verset auparavant? Une, deux, très bien. C'est un des textes certainement les plus connus. Et en travaillant pour préparer cette prédication, je me suis naturellement intéressé à ce que tout le monde en disait. Et effectivement, on a quelque chose d'extrêmement qui occupe l'esprit des gens, c'est qu'on arrive toujours à la fin de ce texte en disant l'aboutissement, et ce qui est important dans ce texte, c'est cette prière que Jésus a laissée à ses disciples, ou ce commandement plutôt, « Priez le maître de la moisson, car il y a peu d'ouvriers ». Et c'est un texte important parce que si vous regardez, la plupart du temps, lorsque Jésus parle de la prière, il est plutôt en train de dire à ses disciples comment il faudrait prier. Et c'est rare qu'il leur dise exactement ce qu'il faut prier. Et si on reprend le Notre Père, c'est plutôt un texte qui nous apprend comment prier. Et Jésus l'a donné en réponse à ses disciples qui disaient « Enseigne-nous comment prier ». Mais ici, c'est un des rares cas où Jésus dit « Voilà ce que vous devriez prier ». Voilà le contenu de votre prière. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on pense à ce verset n'est plus simplement ou n'est pas simplement un verset qui concerne une personne, une situation. Mais derrière ce verset, il y a le destin de l'humanité. Et c'est pour ça que ce verset est resté dans l'esprit des chrétiens tout au long des siècles. Derrière ce commandement que le Seigneur nous donne, se joue le destin de l'humanité. Et je dois reconnaître que pour moi-même, je ne me souviens plus du jour, la dernière fois, où j'ai prié ce verset. Je ne me souviens pas du jour, la dernière fois, où j'ai prié ce verset. Je ne vais pas parler à votre place, mais je ne me souviens pas du jour où du haut de cette chaire, nous avons prié ce verset. Et en lisant un petit peu ce que les uns et les autres pouvaient dire à propos de ce verset ou la façon dont il était utilisé, beaucoup en fait déplorent qu'il y a encore trop peu d'ouvriers dans la moisson du Seigneur aujourd'hui et trop beaucoup de gens déplorent encore qu'on ne prie plus ce verset, ou pas suffisamment ardemment ce verset. Et que quelque part, l'évangélisation et la mission est réservée à quelques spécialistes, mais que l'Église est encore loin d'avoir emboîté le pas au Seigneur et d'être dans une position où presque de façon quotidienne, elle prierait le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors suffit-il simplement de se dire, et suffit-il ce matin que je vous dise, c'est le verset derrière auquel est accroché le destin de l'humanité, et il faut prier. Est-ce que ça suffirait en fait pour que nous repartions motivés à nouveau pour prier ce verset? Et c'est là où en fait, regardez un petit peu le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit. Et qu'est-ce qui l'a poussé lui à le dire? Que nous trouverons peut-être des encouragements et des enrichissements et des enseignements pour comprendre qu'est-ce qui a poussé le Seigneur lui-même à nous donner ce commandement, mais aussi qu'est-ce qui l'a poussé lui, jour après jour, semaine après semaine, à se retirer et dans le secret avec son Père, de prier non seulement pour son propre ministère, mais prier aussi pour ceux qui l'entouraient et toutes les personnes qui l'entouraient. Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à faire cela ? Et j'aimerais, en fait, que nous revenions à cet ensemble de 3-4 versets Parce que dedans, me semble-t-il, il y a quelques détails qui pourraient nous aider à comprendre quel était vraiment le cœur du Seigneur lorsqu'il a dit « Mes disciples, priez, priez le maître de la moisson ». Et la première des choses, si on remonte dans ce texte un petit peu, c'est qu'il regarde les foules autour de lui et qu'est-ce qu'il voit en finale ? Il voit dans toutes ces personnes qui se trouvent autour de lui, au hasard de ses pérégrinations dans les villages et tout ça, il voit une moisson qui est grande. Jésus voit une opportunité. Il ne voit pas simplement quelques épis qui sont là au milieu des ronces en train de se dire bah, « on va avoir que ça, allons-y, et puis attrapons-les ». Mais au contraire, il voit tous les hommes autour de lui, tous ceux qu'il est en train de guérir, toutes les personnes qui sont en Israël, qu'il est en train de rencontrer au cours de son ministère, et il dit « mais voilà, devant moi se trouve une moisson qui est grande et abondante ». Et pour toutes les personnes de l'époque, une moisson qui est abondante, c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est une occasion de joie et de réjouissance. Et c'est de se dire, il suffit de se mettre au travail pour aller cueillir. Il suffit de se mettre au travail pour aller cueillir, moissonner, mettre en gerbe et rentrer la moisson. Et c'est le dernier point qui précède le moment où Jésus donne ce commandement, c'est qu'il dit, moi je vous donne ce commandement, pourquoi ? Parce que lorsque je regarde autour, le monde autour de moi, c'est une moisson qui est mûre. C'est une moisson qui est abondante. Et vous tous qui pensez toujours que c'est un tout petit peu, qu'on a seulement un petit peu à manger, que peut-être la moisson sera bonne ou pas bonne. Jésus dit non. Moi, lorsque je regarde le monde, la moisson, elle est belle. Et cette moisson, elle est prête à être engrangée. Et il va utiliser l'image de la même façon encore à un autre moment lorsque il aura rencontré la Samaritaine et lorsque tous les Samaritains sortiront vers lui pour l'entendre prêcher. Il dit à ses disciples, ah oui, moi je vous entends, vous dites encore 4 mois et la moisson sera prête. Mais Jésus, il dit non, pas encore 4 mois. Maintenant la moisson, elle est prête. Les épis sont blancs, blonds, prêts à être coupés. Je vais vous dire, moi, lorsque je regarde le monde autour de moi, il n'est pas prêt. Il n'est pas beau. Il n'est pas digne d'être engrangé. Il y a trop peu de personnes qui semblent s'intéresser à l'évangile. Moi, je ne dis pas 4 mois, je dis 4 ans, 40 ans, 400 ans. Et Jésus vient d'avoir des altercations avec les pharisiens. Et qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit, moi je regarde le monde autour de moi. Et la moisson est abondante et prête à être cueillie. Et je vous demande de prendre quelques secondes, de penser à votre monde autour de vous. Les gens que vous connaissez, le monde que nous reflète la télévision, la politique, le monde des médias, des artistes, etc. et tout. Est-ce que ce monde-là est une moisson qui est prête, d'après vous, à être engrangée ? Et Jésus, lui, dit, moi, lorsque je vois ça, la moisson, elle est prête. Et j'étais étonné en lisant un des sermons de Spurgeon sur ce texte-là, qui disait, écoutez, moi de mon point de vue, de ce que j'ai étudié, il n'y a pas une seule période dans l'histoire de l'Église, où le monde était plus ou moins prêt à entendre l'Évangile et à répondre au salut. Il n'y a pas d'excuse pour dire notre pays est endurci. Il n'y a pas d'excuse pour dire on attend que le Saint-Esprit crée une sorte de réveil dans notre pays. Le Seigneur n'a pas attendu, est-ce qu'il aurait pu choisir un autre moment dans l'histoire d'Israël ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu sous Salomon ou sous David, lorsqu'Israël était grand, puissant, fidèle au Seigneur ? Et il vient à un moment, Lorsqu'Israël est un petit pays qui a été piétiné par les Romains, qui quasiment disparu politiquement, n'a aucun impact. Et il arrive là et il dit, la moisson est prête. Première motivation pour pouvoir prier le Seigneur qu'il envoie, c'est qu'il n'y a rien dans le monde aujourd'hui qui l'empêche d'être moissonné. Et que lorsque Jésus regarde notre monde aujourd'hui, il y voit aussi une moisson qui est prête à être engrangée. Il n'y a pas à dire dans 4 mois, il n'y a pas à attendre. Jésus voyait cette opportunité et disait quand il y a une belle moisson, avant qu'elle ne pourrisse sur pied, on l'engrange. Voilà pourquoi il dit, allons-y, mettons-nous au travail, mettons-nous à plusieurs et engrangeons ce que le Seigneur a préparé. La deuxième chose, en remontant un petit peu dans le texte, c'est qu'il utilise une autre image et il parle des brebis qui sont abattues et rejetées. Et là, c'est une autre image qui, bien sûr, parlait énormément à ses auditeurs, parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était comparé à son troupeau. Et Jésus regardait, et pas simplement des brebis individuelles, mais regardait tout le troupeau. Et avoir un troupeau dans l'Ancien Testament et au temps de Jésus, c'était avoir une richesse, c'était posséder quelque chose. Et lorsque Jésus dit, je regarde autour de moi et je vois des personnes qui sont comme des brebis, mais des brebis qui sont égarées et tout, il a quand même derrière l'idée, derrière la tête, l'idée que ce troupeau, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu veut s'acquérir lui-même. Et c'est pas simplement des brebis qui sont égarées comme des bêtes sauvages, mais c'est quelque part ce troupeau qui doit être rassemblé et qui doit revenir au Seigneur. Mais derrière cette image aussi, lorsqu'on parle des brebis, l'image de la brebis, ce n'est pas l'image de la stupidité, mais plutôt l'image de la vulnérabilité. Les brebis sont des animaux qui, en fait, ne peuvent pas vraiment vivre toutes seules parce qu'elles s'égarent, elles vont chercher à manger dans des endroits escarpés, puis elles n'arrivent plus à en sortir. Et c'est pour ça qu'on a cette image, par exemple, du bon berger qui va chercher la centième, qui, elle, s'était égarée, s'était perdue, elle n'arrive pas à retrouver son chemin. Mais lorsque Jésus parle des personnes comme des brebis, il voit leur vulnérabilité. Ce sont des animaux qui ont besoin d'être protégés, ce sont des animaux qui ont besoin d'être conduits. On est obligé même de dire à ces animaux où aller manger, où aller boire, quand il faut rentrer. Et surtout, c'est des animaux qui ont besoin d'un conducteur qui s'appelle le berger. Et c'est pour ça que dans la Bible, les deux images vont toujours ensemble. D'un côté des brebis, de l'autre côté des bergers. Et ça, c'est la deuxième chose qui, me semble-t-il, motive Jésus à demander à ses disciples de prier le maître de la moisson. C'est que lorsqu'il regarde les hommes autour de lui, il voit d'abord et avant tout des gens qui sont vulnérables, exposés à des dangers, des personnes qui sont en manque de direction et de conduite, et des personnes qui ont certainement été exposées à un certain nombre de dangers, comme des bêtes sauvages, ou alors tout simplement avoir été conduits par des mercenaires ou des bergers qui avaient d'autres choses derrière la tête que le bien du troupeau. Et encore une fois, au fur et à mesure qu'il visite tous les villages, qu'il passe à droite et à gauche dans les villes, qu'il rencontre les gens, il les regarde et il leur dit, mais mince, ce monde, ce troupeau, cette humanité. Est vulnérable. Elle est dans une situation d'abattement, au point où elle est complètement épuisée. Et pire que tout, il n'y a pas de berger. Personne pour diriger ces brebis. Et dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons aussi, on se rend bien compte que notre progression matérielle ou notre progression technologique, notre progression dans le domaine de la santé ne va pas toujours de pair, ou plutôt ne va pas toujours de pair avec simplement la progression dans le bonheur, la progression dans savoir où on va exactement, et que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent les mêmes questions qu'on se posait au siècle dernier sur le sens de la vie et où va-t-on ? Les mêmes questions que se posait l'humanité il y a 3, 4, 5 siècles en arrière, ou même 10 siècles, 15 siècles en arrière. Et aujourd'hui, certainement, l'illustration de notre crise, où nos responsables ne savent pas exactement comment s'en sortir, montre encore une fois que notre humanité sans Dieu est une humanité qui tourne en rond parce qu'il n'y a pas de vrai berger qui connaît comment conduire ce troupeau. Et il est facile de trouver des exemples de mauvais bergers ou de mercenaires ou de gens qui se prétendent des bergers et qui en fait éconduisent le troupeau de Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il regarde ces gens, tout ce qu'il peut voir, c'est une humanité qui est dans une vulnérabilité extraordinaire et qui est fatigué, et qui est abattu. C'est la deuxième raison pour laquelle Jésus dit « Il nous faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Et tout ça, ça contraste avec ce qu'on vient de lire quelques versets auparavant, lorsque les pharisiens, qui eux doivent être les responsables et les bergers du troupeau, ils arrivent et ils disent aux disciples de Jésus « Mais pourquoi est-ce que votre maître est en train de manger avec collecteurs d'impôts des gens de mauvaise vie ?» Et ces pharisiens qui n'ont pas compris à quel point ils devaient être sensibles et voir la vulnérabilité du troupeau et d'être compréhensifs. Et voilà la deuxième raison pour laquelle Jésus nous demande de prier. Et il répondra, et là de façon extrêmement incisive, aux pharisiens. Il leur dit, mais vous savez, moi je ne suis pas venu simplement pour les gens bien portants. Je suis venu exprès, moi, pour les gens qui sont malades. Je ne suis pas venu pour les gens qui se croient dignes du royaume de Dieu. Je ne suis pas venu simplement pour les gens qui s'estiment être en bonne santé. Je suis d'abord venu pour ceux qui se sentent mal. Et il y en a beaucoup. Et c'est pour eux que je suis venu. Mais la troisième raison aussi, lorsqu'on remonte un peu plus haut dans le texte, ici, Jésus n'observe plus. Jésus, ici, va en fait ressentir quelque chose. Et je dis ressentir parce que derrière ce verbe où il est dit que Jésus eut compassion, dans l'original, le mot ne parle même pas de compassion. Okay ? Dans l'original, le verbe qui est utilisé ici est un verbe qui est dérivé du mot entraille, intestin. Lorsque Jésus a vu les foules autour de lui, c'est ses entrailles qui ont été prises et qui ont été serrées au point où c'était quasiment physiquement qu'il ressentait la compassion pour les gens autour de lui. Alors à juste titre, on met le compassion dedans. Ce n'était pas autre chose qu'il sentait. Mais ici, Jésus est pris d'un sentiment lorsqu'il regarde les gens autour de lui, qui est quasiment physique, où c'est l'adrénaline qui le prend, où c'est quelque chose qui le prend au ventre et qui le serre. Simplement voir les gens autour de lui. Jésus qui lui était clairvoyant, qui savait exactement ce qu'il y avait dans le cœur des hommes, parce qu'il nous dit à plusieurs reprises qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Et il le sait très bien, mais ça ne l'empêche pas, lorsqu'il voit les gens dans leur vulnérabilité, qu'il est pris d'un mouvement de compassion, qui le prend au ventre. Je n'ai pas de souvenir de la dernière fois lorsque j'ai été moi-même pris au ventre en voyant l'humanité autour de moi. Mais ici, avant même que Jésus ne dise « ce sont des brebis égarées », avant même qu'il dise que c'est une moisson, la chose qui le bouleverse d'abord, c'est tout simplement qu'il voit ces gens-là et ça ne le laisse pas insensible. Et il en est ému. Et il saura être ému aux larmes lorsqu'il verra Jérusalem de loin lorsqu'il arrivera à Jérusalem. Jésus demande que l'on prie et il a voulu lui aussi prier le maître de la moisson parce que quelque part, dans un premier sens, il était ému de la situation du monde dans lequel il vivait. Et si vous prenez le mot compassion, qui nous vient du latin, si vous prenez le mot sympathie, qui lui a pris un autre sens, mais qui étymologiquement est exactement la même chose qui nous vient du grec, ces deux mots sont composés du mot souffrir et du petit mot avec. Et lorsqu'il dit que Jésus a eu compassion de, on pourrait remonter à l'étymologie du mot compassion, c'est qu'il a souffert avec les gens qui étaient autour de lui. Je suis sûr que ça vous est arrivé dans certaines circonstances d'avoir mal au ventre, avant un examen, avant de rencontrer quelqu'un, d'avoir ce ventre qui vous serre à cause de la situation dans laquelle vous êtes. Le nombre de personnes qui sont prises au ventre et qui rendent lorsqu'il y a un drame, un accident, qu'un de leurs proches a été affecté par quelque chose, il y a une réaction physique qui se manifeste d'abord et avant tout. Alors ici, je ne vais pas dire que Jésus est allé rendre dans un coin avant de... Mais à un moment, la situation des hommes était tellement forte pour lui que c'est ses entrailles qui parlaient. Et c'est pour ça qu'on a des versets comme Jean 3,16 qui nous disent que c'est parce que Dieu a tant aimé les hommes, tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. L'origine de tout ce que Dieu fait se trouve dans l'amour et la compassion qu'il a pour les hommes et pour sa créature. Et c'est pour ça qu'à juste titre, nous nous accrochons à ce texte de Jean 3,16. Parce que c'est dans l'amour de Dieu que tout trouve son origine. Et de façon merveilleuse aussi, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlera de son ministère et de ce qui le pousse de l'avant, dira que c'est l'amour du Christ qui le pousse et qui le presse. Lui exerce son ministère parce qu'il a vu et il a compris l'amour que Dieu et que Jésus portent aux hommes et que lui-même a pris sur lui ce même amour, cette même passion pour les hommes. Et c'est pour ça qu'il est ambassadeur de Jésus-Christ parmi tous les hommes, les suppliant d'être réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Paul ne dira pas, c'est pas simplement parce que Jésus avait raison, c'est pas simplement parce qu'il a fait les plus grands miracles, c'est pas simplement parce que les autres religions sont moins bonnes. Il ira trouver dans l'amour de Jésus-Christ la raison pour laquelle lui-même va emboîter le pas en réponse à cette prière et devenir un ambassadeur de Jésus-Christ dans le monde. Jésus a contemplé une moisson abondante, une opportunité. Jésus a regardé l'humanité non pas comme des gens qui ne méritaient pas l'amour de Dieu, mais comme des gens qui étaient vulnérables et qui avaient besoin de compassion. Et tout ça a démarré parce que Jésus a eu compassion. Et parce que, quasi physiquement, il voulait s'identifier avec les gens qui étaient autour de lui. Mais il nous reste un quatrième point qui me semble intéressant dans ce texte. Je vais dans l'autre sens. Le dernier point, c'est à la vue des foules. Et c'est un tout petit détail qu'il y a au début du verset 35 ou 36, où il est dit que c'est à la vue des foules que tout ça a commencé. Et cette expression est utilisée plusieurs fois dans les évangiles, où Jésus, c'est en regardant les gens autour de lui qui le suivaient, ou les gens qu'il rencontrait au fur et à mesure qu'il traversait les villages, que c'est à ce moment-là que des choses se déclenchaient et provoquaient. C'est comme ça qu'il va nourrir les foules en multipliant les pains. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, dans un sens, dans ce petit verset, c'est que ça traduit, et ça on le verra par d'autres circonstances aussi, cette disponibilité de Jésus, mais aussi le fait qu'il fréquentait le monde dans lequel il était. Et regardez, si vous vous souvenez bien, le dimanche dernier, et on aurait pu le lire ici aussi, il y a Jaïrus qui vient lui dire, « Seigneur, ma fille est en train de mourir, viens la guérir. » Jésus dit, « D'accord, je viens, je me lève. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une femme lui touche le manteau, etc. Et tout, il s'arrête, il est interrompu, il parle à la dame, il la guérit. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? La fille de Jaïrus meurt. Mais tout ça pour dire, Jésus était quelqu'un qui se laissait déranger ou qui était disponible, qui vivait dans le monde et dans les circonstances et avec les gens avec qui il était. Bien sûr, Jésus avait une idée bien claire de ce qu'il allait faire pour aller jusqu'à la croix, mais cette disponibilité de la part du Seigneur pour interagir avec les gens avec qui il était et dans le monde dans lequel il était, est une chose absolument extraordinaire. Jésus fréquentait le monde dans lequel il était. Il était accusé d'être un glouton et puis un fêtard. Il était accusé de vivre avec des gens de mauvaise vie. Mais ce n'est pas tellement que Jésus voulait se donner une autre image. C'est que tout simplement, il vivait dans ce monde qui avait besoin de lui au point où il le connaissait. Peut-être mieux que les gens qui vivaient dans ces quartiers-là. Et ici, en préparant encore ce message et en lisant un petit peu sur la prière, etc. et tout, le nombre d'efforts d'évangélisation ou de programmes d'évangélisation qui existent aujourd'hui, qui ont débuté par des personnes qui se sont immergées dans le milieu qu'elles voulaient toucher pour le Seigneur. Et là, il y a comme un phénomène aujourd'hui qui est en train de se passer, ce qui s'appelle des marches de prière, qui sont des personnes qui, de façon régulière, dans un milieu pour lequel elles ont un fardeau, c'est de littéralement se déplacer, d'aller dans ces milieux-là, pour les connaître, mais aussi pour prier pour ces milieux-là. Et combien de fois est-ce que, en fait, nous, notre attitude est de dire, moi, pour vivre sainement, saintement, et pour ne pas être soumis à la tentation, à l'épreuve ou quoi que ce soit, je me retire de milieux qui pourraient être une menace pour moi. Et nous pensons que c'est là l'attitude chrétienne. Alors bien sûr, il faut être plein de sagesse, il faut être plein il faut faire attention naturellement à ce qui pourrait éventuellement être un danger pour nous. Mais il n'empêche, qu'est-ce qui nous empêche d'être trempés et de fréquenter des milieux où on sait littéralement que ces personnes ont besoin du Seigneur? Mais où nous, pour une raison ou une autre, c'est pas notre genre, c'est pas notre style, c'est pas le milieu dans lequel on se sent bien, et puis surtout, on voudrait peut-être pas être tenté par ce qui se passe là-bas, et donc, littéralement, physiquement, on se retire. Et des études très sérieuses ont été menées, en fait, sur ce qui se passe dans la vie de gens qui se convertissent. Et il y a des années en arrière, Isabelle et moi, on connaissait un petit peu ses études, mais c'était en l'espace de 3 ans après sa conversion, une personne avait coupé les ponts avec tous les milieux avec lesquels elle était avant. D'accord ? Elle avait recomposé tout un autre milieu après, qui principalement tournait autour de l'Église et des gens qui partageaient les mêmes valeurs et la même vision du monde. Et c'est des études très sérieuses qui sont faites. Et aujourd'hui, je pense que ce sera certainement plus court encore que 3 ans. Mais lorsque des personnes se convertissent de façon extraordinaire, ou peut-être pas extraordinaire, mais elles se coupent littéralement du milieu dans lequel elles étaient, et elles se mettent ailleurs, dans un milieu, dans un cocon qui est complètement fermé. Mais Jésus, et vous l'avez vu avec moi dans ce verset 35 que je lisais, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Jésus s'immergeait dans le monde dans lequel il a vécu. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu reprendre ce tout petit texte de 3-4, parce qu'il me semble qu'il y a ces éléments-là dans le texte qui nous permettent de voir, en fait, on peut seulement prier cette prière qu'à partir du moment où on avait le cœur que le Seigneur avait au moment où il a dit de prier cela. Et le cœur du Seigneur à ce moment-là, c'était le cœur de quelqu'un qui se disait, non pas qu'il y avait des excuses en disant le monde est mauvais, ils sont indignes, personne ne veut entendre, etc. et tout. Non, ce monde est prêt. Le monde est prêt. C'est une moisson abondante. C'est le cœur de quelqu'un qui regardait les hommes, non pas en disant, bah, écoute, c'est ta faute si tu es dans la mouise dans laquelle tu es aujourd'hui. Puis d'abord, c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de monde. Jésus regardait tous les hommes. Même les Zachée et les Matthieu qui étaient des gens éduqués, qui avaient de l'argent, qui avaient exploité, qui étaient nos banquiers et nos traders d'aujourd'hui ou je ne sais pas quoi. Il leur dit, ce sont des brebis vulnérables et égarées. Elles n'ont pas de berger. C'est ça la condition de l'humanité dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est pour ça. Mais tout a démarré parce qu'à un moment, Jésus, qui lui s'était immergé, a tout d'un coup s'est laissé émouvoir par ce qu'il a vu autour de lui. Et c'est pour ça ensuite qu'il a dit, il nous faut prier pour que le Seigneur envoie plus de moissonneurs. Chers amis, nous ne pourrons jamais prier cette prière de Jésus si nous n'avons pas le cœur de Jésus. Si nous n'avons pas ce que Jésus lui-même a vécu à ce moment-là, non seulement on ne pourra pas, mais on ne voudra pas prier cela. Parce que le risque se trouve dans le verset 1 du chapitre 10 après, c'est qu'il dit à ses disciples, « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des moissonneurs. » Qu'est-ce qui se passe après? C'est les 12 qui partent. C'est eux qui partent. Et peut-être nous ne le prions pas parce que nous avons peut-être peur que le Seigneur nous envoie nous. Mais si nous ne voulons pas aller, c'est qu'encore une fois, notre cœur n'est peut-être pas celui que le Seigneur avait lorsqu'il nous a demandé de prier ça. Mais nous ne pouvons pas avoir le même cœur que Jésus si nous n'avons pas la même vision de l'humanité que Jésus. Et si aujourd'hui nous pensons que ce monde est perdu de par sa propre faute, qu'il est sous le jugement de Dieu, qu'il est en train de moissonner ce qu'il a fait, et que c'est simplement notre attitude en disant « c'est de sa faute », nous n'avons pas le cœur de Jésus, nous n'avons pas compris ce qui a poussé le Seigneur. Parce que s'il y en a un qui pouvait parler comme ça depuis toute éternité, c'est Dieu lui-même. Et il pourrait regarder chacun d'entre nous et dire « tu sais quoi, la mouise dans laquelle tu es, c'est de ta faute, pourquoi est-ce que je viendrai t'aider ?» Aucune faute, aucun mal, aucune attitude n'est au-delà de l'amour de Dieu. Et ce monde, avec tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui de façon délibérée peut-être même, dans une pleine révolte contre le Seigneur, rien de ce qui se trouve dans ce monde n'est au-delà de l'amour et de la compassion que le Seigneur lui porte. Et si nous n'avons pas cette attitude à l'égard du monde et cette passion pour le monde, quoi qu'il ait fait, nous ne pourrons pas prier que le Seigneur envoie plus d'ouvriers. Mais la dernière chose aussi, et ça c'est une chose importante, c'est qu'encore une fois, nous ne pouvons pas comprendre ce monde et nous ne pouvons pas ressentir ce que vit ce monde si nous ne fréquentons pas ce monde. Ne me poussez pas trop loin dans ce que ça signifie du point de vue pratique, mais simplement du point de vue de l'attitude. Est-ce que nous cherchons à nous préserver du monde? Est-ce que nous cherchons à nous retirer du monde? Est-ce que nous cherchons à vivre simplement entre des personnes qui partagent exactement les mêmes choses pour que nous sentions bien? Ou est-ce que par moments nous nous faisons violence pour sortir comme le Seigneur le faisait pour rentrer dans des endroits comme Capernaum et d'autres lieux où il savait très bien qu'il ne serait pas reçu? Mais où il est quand même allé parce que là se trouve une humanité pour laquelle il est venu et pour laquelle il est pris aux entrailles. Chers amis, ce texte nous enseigne beaucoup de choses. Il nous rappelle naturellement encore une des prières les plus importantes que le Seigneur nous ait laissées. Mais il nous dit aussi beaucoup d'autres choses. La première des choses, c'est qu'il nous dit en fait comment nous devrions regarder les gens autour de nous. Et là, je pense qu'il est facile de nous dire dans nos églises, et la façon dont on l'a fait, on n'a pas toujours eu le même cœur que le Seigneur pour l'humanité. La deuxième chose que ce texte nous enseigne aussi, c'est à quel point notre ministère et ce que nous pouvons faire pour le Seigneur doit se trouver presque dans une identification avec le monde autour de nous, au point où nos sentiments, nos émotions, même physiquement, nous sommes pris dans cette identification avec les gens autour de nous. Parce que ce ne sont que des brebis qui sont égarées, abattues et qui languissent après avoir un berger. Et la dernière chose, c'est que, avant toute chose, c'est la prière qui doit nous conduire, c'est à la prière que nous devrions aboutir. Avant même de nous précipiter au dehors et d'annoncer l'évangile, c'est de prier et d'intercéder pour ce monde. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que le Seigneur a fait d'abord, a donné la prière, alors bien sûr, directement après, au chapitre 10, il les envoie, donc il y a de la mise en pratique immédiatement, mais pourquoi la prière ? Qu'est-ce que Dieu a besoin de plus ? Il le sait, lui. Mais peut-être avant tout, la prière, c'est le moment et le moyen par lequel Dieu associe notre cœur à son cœur. Parce que dans la prière, c'est là où nous exprimons nos désirs, nos langueurs, nos souhaits. C'est dans la prière que nous recherchons la volonté du Seigneur et que nous l'écoutons. C'est dans la prière que la communion se fait entre le cœur de Dieu et notre propre cœur. Et la première des choses qu'il nous faut lorsque nous proclamons l'Évangile, et pour proclamer l'Évangile, c'est que nous ayons le même cœur que le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous pousse d'abord et avant tout à prier pour l'évangélisation. La prière pour l'évangélisation n'est pas simplement cette préparation. C'est littéralement se mettre dans les mêmes conditions que Jésus était, dans lesquelles il était, pour ensuite annoncer et proclamer. Et c'est dès lors que nous aurons ce même cœur que le Seigneur qui fréquentait ce monde, pour le connaître, qu'il aimait au point où il ressentait tout physiquement, qui voyait bien qu'en dépit de leurs fautes et de leurs responsabilités, c'était de pauvres brebis, mais qui en même temps se réjouissait parce qu'il y avait une moisson abondante, abondante pour l'œuvre du Seigneur. C'est à partir du moment où nous pourrons avoir ce même cœur, cette même attitude, que nous recevrons dans la prière, que nous serons alors après aptes à aller de l'avant et à annoncer l'Évangile. Chers amis, les Évangiles sont pleins d'enseignements, ne serait-ce que par l'exemple et ce que le Seigneur nous a enseigné. Pas toujours parce qu'il a dit, mais surtout parce qu'il nous a rapporté de ce qu'il a fait. Et remettre ce texte qui peut-être nous est difficile à prier, ou que nous avons oublié de prier, mais de le remettre dans son contexte. Le Seigneur nous redonnera la force pour pouvoir le prier, mais aussi il nous dit comment. Aimez les hommes autour de vous. Le jugement appartient à Dieu. Aimez les hommes autour de vous. Si de toute éternité le Seigneur a fait un plan pour venir sauver les hommes, lui qui avait toutes les raisons de ne pas les sauver, à plus forte raison, nous avons toutes les raisons d'aimer les hommes et d'avoir le cœur du Seigneur. Je vous invite à quelques instants de prière, puis ensuite, je terminerai moi-même. Seigneur, je voudrais te remercier encore pour ta parole. Te remercier pour le privilège de pouvoir l'étudier puis ensuite la proclamer. Je te remercie, Seigneur, d'avoir permis que tes disciples se souviennent de ces détails et qui disent tellement de choses à propos de comment tu as fait les choses, pourquoi tu les as faites, mais qui révèlent aussi tellement de qui tu étais et du cœur que tu avais pour les hommes. Seigneur, je voudrais te demander que ces quelques versets restent dans notre cœur. Que nous ne sentions pas simplement, Seigneur, le poids du commandement de prier, mais que nous puissions voir aussi, Seigneur, ce qui t'a poussé à nous demander de prier. Et je te demande, Seigneur, que tu nous aides à mettre de côté toutes nos idées que nous avons peut-être forgées à tort au cours des années, qui nous ont séparés de ce monde dans lequel nous vivons, plutôt que de lui tendre la main et de le fréquenter pour être le sel de la terre et être la lumière dans les ténèbres. Seigneur Dieu, tu as été accusé d'être de mauvaise vie. Tu choquais certains, Seigneur, par les fréquentations que tu avais. Mais tu le faisais, Seigneur, parce que tu aimais le monde et tu aimais les hommes que tu allais chercher. Alors, Seigneur, au terme de ce culte, nous te prions que tu nous donnes de l'amour pour ceux qui sont perdus, ceux que nous regardons et que peut-être nous jugeons parce qu'ils se comportent d'une façon insensée ou peut-être parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque même inconsciemment, nous avons un sentiment de supériorité. Et Seigneur, je te prie que tu nous parles et que tu nous aides à prier cette prière. Et que tu nous rendes disponibles aussi, si telle est ta volonté, de nous envoyer et de proclamer. À salut. Réjouis, Seigneur, aussi notre cœur parce que la moisson est abondante. Aide-nous, Seigneur, à laisser cette parole simplement s'imposer à nous et à dissiper toutes nos fausses idées, toutes les excuses que nous pourrions avoir pour ne pas parler, pour expliquer pourquoi nous sommes une minorité et peut-être pour baisser les bras. Seigneur, fais ton œuvre en nous, nous te prions par ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est vivante. Elle l'a montré encore une fois ce matin. Au nom de Jésus, amen. Et oui, ça c'est un des privilèges de pouvoir apporter les prédications. C'est de pouvoir se plonger, travailler et retravailler en fait le texte biblique et d'être aux premières loges pour en découvrir les beautés. Je passe aux annonces pour notre semaine et la vie de notre Église. Cette semaine, il y aura peu d'activités, mais quand même des choses importantes. Tout d'abord, jeudi soir, le conseil se rassemblera. Et là, j'aimerais encore simplement vous remettre le conseil à vos prières. Vous savez, les différents projets dont on a parlé, qui doivent être mis en place, tout ne se fait pas toujours extrêmement simplement. Donc, non pas qu'il y ait des problèmes ni quoi que ce soit, mais c'est simplement quelquefois l'ampleur de la tâche, et nous demandons vraiment vos prières. Priez aussi pour oui, que le Seigneur continue à nous travailler en tant que groupe. Il a fait de belles choses et on se réjouit souvent à se retrouver, mais que le Seigneur nous utilise encore en tant que groupe pour faire son œuvre ici dans l'Église. Samedi après-midi, groupe de jeunes, ou samedi soir, je ne sais pas à quelle heure exactement. 20h30, sinon de toute façon tu informeras et ça sera sur le site. 18h. Tout dépend du fuseau horaire dans lequel vous êtes et si c'est heure d'été ou heure d'hiver. Mais ça fait rien, ça sera 18h ou 20h30 comme vous le souhaitez. Pas de problème. Je voudrais déjà annoncer aussi le samedi 17 novembre, club d'enfants. Le matin, vers quelle heure? 10h. Et des invitations sont au fond que vous pouvez prendre et déjà distribuer. Donc samedi 17 novembre. Aussi, surveillez dans vos emails. On commencera à faire circuler quelques informations aussi pour des volontaires, pour la banque alimentaire. Vous savez, tous les ans, on recueille la nourriture supermarché, Carrefour de Sony, si je ne me trompe. Donc la banque alimentaire, le 1er et le 2 décembre, vendredi et samedi, 1er et 2 décembre.
Alors, je suggère une chose. Sur le site, ça sera mis, mais en tous les cas, début décembre, fin novembre, début décembre, cette activité est quand même importante de bénévolat pour recueillir. Et c'est vraiment, c'est de la main d'œuvre, mais c'est extrêmement utile. Et c'est la banque alimentaire donc qui va arriver. Bon, préparation pour la fête de Noël. Nous sommes à J-30, quasiment, presque, ou un mois. Tout d'abord, vous trouverez au fond des invitations que vous pouvez utiliser. Mais cette année, nous aimerions vraiment recommander que ces invitations soient distribuées de la main à la main. D'accord ? On a remarqué, on constate au cours des années, que la plupart des personnes qui viennent sont des personnes qui viennent parce qu'on les a invitées personnellement. Donc utilisez d'abord ces invitations avant tout pour les distribuer aux personnes que vous connaissez. N'en prenez pas 10 fois plus que ce que vous avez besoin. Prenez le nombre dont vous avez besoin, mais surtout remettez-les entre les mains des personnes qui pourraient venir et que vous souhaiteriez qu'elles viennent. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'ateliers préparatifs pour cette fête de Noël, et principalement autour de la fête de Noël. Il va y avoir le commencement des travaux un peu plus lourds, c'est-à-dire tout ce qui va être décor, etc. Et là, Philippe Bourjas va mettre ça en place incessamment sous peu. Donc les personnes qui sont portées volontaires pour ça, Philippe vous contactera bientôt, en tous les cas, pour commencer à fabriquer ces décors et ces objets un peu plus lourds. Les costumes. Là, il y aura un atelier le 3 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, à 14h, ici, c'est ça, ici, donc pour la confection des costumes. Donc tous ceux qui là aussi sont portés volontaires pour la fabrication des costumes, samedi prochain. La chorégraphie, Elodie, elle transmettra des informations directement aux personnes qui se sont portées volontaires. Mais en tous les cas, si vous êtes porté volontaire pour l'un de ces trois groupes, sachez en tous les cas que dans la semaine ou les 10 jours qui viennent, vous allez être appelé et mis à contribution pour commencer à préparer. Du matériel, toujours à la recherche d'un certain nombre d'objets, comme un tapis rouge, deux palmiers, si jamais vous avez des palmiers, on aura besoin de palmiers, et puis différents objets qu'on a dans les chambres à coucher, comme des chevets, des lampes et des choses comme ça, on va avoir besoin de ça aussi. Vieux, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti qu'elles reviennent. Des vieilles choses que vous avez dans les greniers, d'accord. Donc tout ce qui est objet de chambre à coucher que vous avez dans votre grenier, n'hésitez pas à nous les apporter. Ensuite, à la fin du culte, Anne-Marie se tiendra au fond pour commencer à distribuer et à vendre les calendriers. Vous savez qu'on a reçu le stock de calendriers, et donc même si on est déjà au mois de novembre, ou pas encore, mais bientôt, prenez quand même votre stock et commencez à le distribuer. Donc voilà un petit peu les annonces à propos des activités. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter que j'aurais oublié, qui n'aurait pas été transmis ? Non ? Très bien. Ben écoutez, alors je vous invite à vous lever. Je vais prier encore pour la fin de ce culte. Seigneur éternel, nous voulons te louer et te glorifier tous ensemble pour ce moment que nous avons pu partager ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que ton esprit est vivant et il inspire nos louanges, notre adoration. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est vivante et elle enseigne. Alors, Seigneur, nous te prions que la joie dans le cœur, nous puissions repartir. Nous te prions, Seigneur, que avec des forces nouvelles, nous repartions, Seigneur, pour cette semaine de travail pour la plupart d'entre nous, mais aussi, Seigneur, que tu nous donnes un cœur pour le monde dans lequel nous vivons et que nous fréquentons. Seigneur, nous te prions que tu ouvres nos yeux pour voir là où nous pouvons être des témoins. Et Seigneur, surtout que tu nous donnes un cœur comme le cœur que tu avais. Seigneur, nous recevons ta grâce, nous te remercions parce que tu fais de nous des collaborateurs et nous te louons. Au nom de Jésus, amen. Bon dimanche à chacune et à chacun.